Vous écoutez la station qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle. Ebenezer International, votre radio. Ecclésiopod, sur Ebenezer International, votre radio. Bonjour et merci, chers amis des ondes, de choisir la radio qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle par l'écoute de la bonne musique, des études bibliques et des témoignages de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, chers amis, plus que jamais, l'Église a besoin d'un ministère de réconciliation pour rassembler le meilleur de toutes les traditions chrétiennes. Satan s'est servi de la division dans l'Église afin d'accomplir quelques-uns de ses desseins. Il est temps, oui, il est grand temps de mettre l'accent sur ce qui nous unit, en mettant de côté nos différences. C'est aussi dans cette même perspective que la Radio Ebenezer International vous propose dans cette nouvelle édition d'Ecclésiopod un message du pasteur Jean-Claude Boutinon, de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Sarcelles. Espérant que vous garderez l'écoute, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne audition sur votre radio. Ebenezer International, je suis votre ami, votre serviteur, Franck Doristil qui vous parle. Dear listeners of the Digital Gospel Channel, I greet you and welcome you in this new edition of Ecclesiopod. I'm just thankful that the Lord let me be your podcaster one more time. It's so great a privilege. I just want to begin this new programming with some deeply personal words to assure you of our consideration and our gratefulness to the Lord who have entrusted us this ministry. Don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.frankradio.podomatic.com, www.frankradio.podomatic.com. Before welcoming Pastor Jean-Claude Boutinon and God's Word for this week, I invite you to give a listen to Danny and Moïse Utuel, and a very nice song selected for your pleasure. I'm your friend and servant, Frank Greystill, speaking. Stay in tune. Ciao, ciao e benvenuti a tutti i fedeli amici che ci ascoltano nella città di Roma, Bolzano, Torino. Sono molto felice di sapere che siete ancora con noi per questa nuova trasmissione. Ma rado il fatto che sia in francese, come anche tutte le altre del sito. Ora certezza che i belli canzoni che vi abbiamo scelto vi faranno molto piacere. Sono il vostro amico pastore Franck Doristil per la Radio Ebenezer International. Chers amis, je vous rappelle que vous êtes sur votre station à l'heure de ce nouveau numéro d'Ecclésiopod. Et juste avant de céder l'antenne au pasteur Jean-Claude Boutinon de l'Église des Assemblées de Dieu de Sarcelles pour le message du jour, nous allons écouter Danny et Moïse Utrel dans un chant intitulé « Le regard de Jésus ». Ecclésiopod. Je vous souhaite une agréable écoute.
J'ai croisé le regard de Jésus. Près
téléphone.
International.
Merci Daniel Moïse pour ce chant qui nous conduit directement à l'église des Assemblées de Dieu de Sarcelles. Pasteur Boutinon, vous avez l'antenne.
Évangile de Jean, chapitre 4, verset 40. Je voudrais parler avec vous du regard qui change la vie. Regard qui change la vie, j'espère que vous avez vos Bibles. Habituellement, je fais lever les Bibles. Est-ce que je peux voir vos Bibles là? Levez bien vos Bibles, là. Levez bien. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de Bible à côté de vous? Vous faites comme moi sur Max. Vous pouvez acheter des Bibles à la sortie. Voilà, après cette petite distraction, je lis dans Jean chapitre 4, verset 20. Jean chapitre 4, verset 20. Le regard qui change la vie. Voilà Jean 4, verset 20. Et nous demandons au Seigneur de vous bénir, vous qui êtes ici, et les personnes qui vont voir ce message sur le site des églises Source de Vie. Jean chapitre 4, verset 20. Il nous est dit que la femme s'adresse à Jésus, se demande s'il est prophète. Verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je vais sauter au verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils s'étonnaient de le voir parler avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que cherches-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa sa jarre, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Ils sortirent de la ville pour aller vers lui. Pendant ce temps, les disciples lui disaient, Rabbi, mange. Mais il leur dit, moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson. Eh bien, moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Il nous est dit plus loin, verset 39, beaucoup de Samaritains de cette ville mis leur foi en lui à cause de la parole de la femme. Il rendait ce témoignage, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de rester, de demeurer auprès d'eux. Et il demeura là 2 jours. Il fut encore beaucoup plus nombreux à croire dans sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Amen.
Amen.
Le verset sur lequel je veux me baser principalement, je l'ai mis ici à l'écran, sur le mur. Hébreux chapitre 12, verset 2, nous dit, « Ayant le regard sur Jésus, le chef de la foi, qui en vue de la foi qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. » Et je remarque dans ce verset que l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à ces chrétiens un petit peu branlants, un peu fatigués, qui n'ont pas tellement la vie de l'esprit, les Hébreux auxquels ils s'adressent. Et il leur recommande un regard particulier, de regarder à Jésus, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il nous invite, la parole de Dieu nous invite à regarder d'une certaine manière, à voir les choses d'une certaine manière. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, c'est pas dit avec les mots de regard, etc., mais il nous est dit en vue de la joie qui lui était réservée. Ce texte, la parole de Dieu nous dit que Jésus lui-même avait un objectif, avait quelque chose en vue. Et ce qu'il avait en vue lui a permis de passer au travers de moments difficiles, l'ignominie, la souffrance, etc., la honte. Et Jésus a passé tout cela parce qu'il avait un objectif bien déterminé. Il avait quelque chose qui était en vue, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a passé au travers de toutes ces choses parce qu'il avait en vue le fait d'être assis à la droite de Dieu, il avait en vue la joie à venir, il avait en vue le royaume de Dieu, il avait en vue le fait de se retrouver auprès du Père comme il l'a été de toute éternité, puisqu'il est vrai homme et vrai Dieu. Jésus a vécu de cette manière, et parfois, dans nos vies chrétiennes, nous nous posons une question intéressante que nous faisons bien de nous poser, à savoir, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et là, nous voyons comment Jésus vivait, et je vous invite à vivre à la manière de Jésus, et en regardant, en ayant le regard fixé sur les choses importantes, comme Jésus l'avait. Nous allons voir que Jésus voyez des choses, souvent les pharisiens ou les disciples, ils sont dans une certaine circonstance et les pharisiens ou les disciples, ils voient quelque chose. Et moi je suis frappé par le fait que Jésus voit quelque chose de tout à fait différent. Pourtant, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes circonstances, mais ils voient des choses différentes. D'ailleurs, on le sait bien, quand on a des préoccupations particulières, on voit ceci, on ne voit pas forcément cela, et donc ça correspond à ce qu'il y a, à ce qu'il y a dans notre cœur. Peut-être que pour vous illustrer ça, en particulier pour les enfants qui sont avec nous, et j'ai repris quelques diapos que j'avais utilisées concernant la célèbre phrase de la tortue et du lièvre. La tortue et du lièvre. Alors, je ne sais pas si les enfants apprennent des fables de La Fontaine. Nous, un peu âgés maintenant, quand on était jeunes, on apprenait des choses par cœur, on apprenait des fables de La Fontaine. J'ai même une sœur camerounaise qui m'expliquait que là-bas, au Cameroun, on apprenait ce que c'était que le gland, ce que c'était que le boulot et tout ça. Et quand on est parti à la mèche, elle me dit, mais est-ce que tu peux m'expliquer? Bon, il faut dire que les instituteurs, le plan, je suppose, qui enseignaient à un Camerounais ce que c'était qu'un gland, un chêne et tout ça, bon, ça me semble pas trop malin. Bon, bref, de toute façon, on ne va pas parler de pédagogie ce matin. Voilà, mais je reviens au lièvre et à la tortue. Alors, je ne sais pas, les enfants, vous la connaissez, la femme du lièvre et de la tortue? Non? Voilà, c'était un lièvre Un lièvre, est-ce que ça court vite ou est-ce que ça court pas vite? Ça court vite. Et une tortue, ça court vite ou pas? Ah non, ça court pas vite. Et voilà que la tortue a fait un pari fou un jour. Elle a dit au lièvre, je vais arriver avant toi. On va faire la course. Je ne sais pas, elle se prenait peut-être pour Usain Bolt. Je vais faire la course et je vais arriver la première. Et le lièvre, il a dit, ma pauvre tortue, tu dis n'importe quoi. Autant que je me souviens, la femme dit, tu as mangé quelques grains d'élébore, c'est-à-dire, c'est un peu détraqué. Tu t'imagines, tu arrives devant moi. Oh là là. Et donc, voilà, quelques images que nous avons à l'écran. Oui, ça, c'est une tortue un peu spéciale. C'est au 21e siècle, il y a une sorte de missile sur son dos, mais ça, c'était pas à la fin de la fontaine. Et puis voilà, la tortue, mais regardez là, ça m'intéresse beaucoup. Si tu peux mettre plus net, je ne sais pas si tu peux. Mais la tortue, elle a son objectif. Son objectif, c'est je veux arriver avant lui. Et lui, bon, il regarde dans ce sens, dans l'autre, tout ça. Il est en train de regarder un petit peu dans tous les sens. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Est-ce que tu es un lièvre ou une tortue? Demandez! Est-ce que tu es un lièvre ou une tortue?
Non.
Remarquez, le lièvre, il a vraiment des capacités. Ça, c'est un champion. Et la tortue, elle est tellement lente. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que Dieu ne regarde pas à nos capacités. Et Dieu peut utiliser plus quelqu'un qui n'a pas beaucoup de capacités, comme la tortue. Il peut l'utiliser plus que le lièvre, qui lui en a beaucoup. Amen. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, on raconte, on parle de gens particulièrement savants. Par exemple, au moment de la Réforme, il y avait quelqu'un de particulièrement savant, il s'appelait Erasme. Et il y avait Luther, que vous connaissez. Et quelqu'un a dit que parce que Dieu n'a pas pu se servir d'Erasme, il s'est servi de Luther. C'est-à-dire, Dieu veut se servir de toi. Mais je crois qu'il y a une autre diapo avec la tortue, je l'aime beaucoup celle-là. Voilà. La tortue, voyez. Ici, c'est la ligne d'arrivée. Est-ce que vous pensez qu'elle va arriver en premier? Il semble bien. Et oui, parce que lui, il est dans son hamac. Il est en train d'écouter Johnny Hallyday. Je sais pas. Céline Dion. Et puis, il a même le Coca-Cola ici.
Il dort,
ouais. Donc, voilà. Elle va arriver en premier. Mais elle va arriver en premier, et c'est là ce qui m'intéresse, elle va arriver en premier parce qu'elle a son objectif. Amen. Est-ce que vous avez, peut-être vous avez suivi, je parlais de Usain Bolt, peut-être vous avez suivi sa course fantastique, courir le plus vite qui soit de tous les temps. C'est formidable. 9 secondes 58, c'est ça? Bref, c'est tellement rapide, vous avez regardé tout ça, peut-être là-bas. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il a fait la demi-finale, alors il était presque à l'arrivée, il était en train de discuter avec son voisin. Vous avez vu ça? Mais pour la finale, là, il avait son objectif et il a pulvérisé son record. C'est ce que je veux te dire. Quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif, c'est le royaume de Dieu? Oui, c'est une image de Usain Bolt. J'ai mis premièrement, pèlerin en marche vers le royaume. Ça, c'est ce qu'est le chrétien. Un pèlerin en marche vers le royaume. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui marche. C'est quelqu'un qui a un objectif. C'est quelqu'un qui n'a pas un gros paquet. Et c'est quelqu'un qui peut donc être libre et aller loin. Nous sommes en pèlerin, en tant que pèlerin. La parole de Dieu nous dit ça, nous sommes d'une certaine manière pèlerins et voyageurs. Et Et donc, nous avons un objectif et nous ne voulons pas nous embarrasser de trop de charges. Jésus vivait de cette manière-là avec un objectif, le royaume de Dieu. Et parfois, nous nous disons, mais ma vie n'est pas formidable, j'ai des problèmes, je suis triste, j'aimerais bien avoir telle chose, je suis frustré. Mais nous sommes frustrés, pourquoi? Parce que nous n'avons pas qu'un seul objectif. Est-ce que Jésus était frustré? Est-ce que Jésus allait voir le psychologue pour la frustration? Non, Jésus était dans la plénitude. Dieu veut te donner la plénitude, même si c'est dans des circonstances difficiles. Amen. Au culte précédent, quelqu'un disait, parfois, nous nous intéressons beaucoup à nos petits bobos. Et on est triste parce qu'il y a ceci, il y a cela. J'ai envie de dire, ne t'embarrasse pas de trop de choses. Tu es pèlerin. Je suis pèlerin. Je suis en train de voyager vers le royaume de Dieu. J'ai mon objectif. Jésus vivait de cette manière-là. Je vais faire comme lui. Par exemple, dans Luc chapitre 9, verset 31, lorsque la nuée apparaît, lorsqu'il y a la transfiguration, là encore, Jésus et Moïse et Élie qui sont là parlent de l'objectif de Jésus. Il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire il parlait du ciel de gloire, il parlait de l'ascension, mais il parlait aussi de la crucifixion. On peut se laisser attirer par la souffrance qui vient. Mais Jésus a considéré la souffrance et au-delà de cette souffrance, il voyait la résurrection, il avait cet objectif, il avait ce plan qui était devant lui et à ce moment-là, il a réussi à supporter la souffrance, à supporter l'ignominie. Amen. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 18, Paul raisonne un petit peu de cette manière-là. C'est un beau verset, un verset intéressant, qui dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. » Paul fait là une comparaison, une estimation et une comparaison. Il compare les souffrances du temps à venir. Si je faisais un schéma, je dirais les souffrances du temps à venir, elles sont comme ça, à ce niveau-là. Et Paul, il les compare à la gloire à venir. Et la gloire à venir, elle est là. La gloire, elle est tellement plus grande. J'estime les souffrances du temps présent qu'elles ne peuvent être comparées à la gloire à venir qui lui sera révélée. Voilà ce que Paul avait dans le cœur. Nous sommes les héritiers du ciel. Amen.
Amen.
Nous sommes des pèlerins sur la terre, notre cité est dans les cieux. Nous avons un avenir céleste et non terrestre. Que Dieu soit béni pour cela. Amen. Le plus important, c'est le royaume de Dieu. Et donc, je vous propose un test. Peut-être tu veux savoir si quelque chose, Dieu te demande de faire cette chose-là. Alors, je te propose un test. Et ce test est le suivant. Quand tu fais quelque chose, quand tu passes du temps pour quelque chose, quand tu organises quelque chose, quand tu te fatigues pour quelque chose, une question que tu peux te poser, est-ce que c'est utile pour le royaume de Dieu ? Est-ce que c'est utile pour le royaume de Dieu? Si tu peux dire oui, c'est vraiment utile pour le royaume de Dieu, fais-le. Si tu te dis, bon, c'est pas trop utile pour le royaume de Dieu, pose-toi des questions. Ça peut s'appliquer dans toutes sortes de domaines. Je prends des applications. Tu es un jeune homme et une jeune fille. Tu passes des heures devant ton ordinateur, avec Facebook, avec tout ce que tu veux. Est-ce que c'est utile pour le royaume de Dieu. Beaucoup, moyen, pas beaucoup. Je ne te dis pas d'aller, de ne pas aller sur Facebook, j'en sais rien. Ça peut être utile, je ne te dis pas ça. Tu es libre. Mais il y a des choses, un peu c'est comme à l'école, vous voyez. À l'école, il y avait coefficient. Les mathématiques, coefficient 5, 10, je ne sais pas quoi. Tu rates tes maths, t'es foutu. Ah ouais? C'est fini pour ton examen. Il y a des choses avec un grand coefficient. Et il y a d'autres choses pas trop importantes. Alors tu diminues le temps que tu passes sur Facebook et tu remplaces en venant à l'église. Dis amen.
Amen. Amen.
Ou alors tu es un adulte et la télé c'est ton truc. Bon, vous allez dire que je répète la même chose. Les feux de l'amour. Il y en a, ils n'arrivent pas à se décrocher de ça, les feux de l'amour. Est-ce que c'est utile pour le royaume de Dieu? Ben, franchement, je ne sais pas, pas trop, je crois. Il y a quelques années, JR et tout ça, et tout. 6 mois après, vous revenez, c'est toujours la même chose. Lui, il a couché avec elle, et lui, c'est mon fils, on ne savait pas, on a découvert et tout, et tout. Ouh! Tu lèves le pied avec ça. Je ne dis pas que c'est interdit. Mais si tu as comme objectif le royaume de Dieu, alors peut-être tu vas lever le pied avec ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Parce que sinon, moi je vais te dire un truc. Écoute bien. Les tortues vont te dépasser. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin en disant fais gaffe parce que les tortues vont te dépasser? Les tortues vont te dépasser.
Ecclesiopod, un peu digital, Gospel Journal. Une pause musicale avec l'artiste sud-africain Donovan Alexander qui sera bientôt notre invité dans la rubrique Mykonak. Bonne écoute à toutes et à tous.
You are my strength and you're my guide. No one else can ever take your place. You're a lamp unto my feet. Lord, you guide me through my life. Lord, I commit myself to you. Teach me your ways. I need your love. I need your love. I dedicate my life, I dedicate my life to you.
How far away you lead me to, you am never leaving. The lamb unto my feet. Lord, you guide me through my life. Lord, I commit myself to you. Teach me your ways. I need your love. I need your love.
Ebenezer International.
Je vous propose un objectif. Je vous propose un objectif pour cette nouvelle année qui commence. Le nouvel objectif que je vous propose correspond exactement à ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire je vous propose d'avoir comme activité essentielle de vider l'enfer et de remplir le ciel. Amen. De vider l'enfer et de remplir le ciel, ça c'est un bon objectif. Je pense que nous prions, nous enseignons, nous évangélisons, nous faisons une école biblique. Nous voulons faire une belle construction. Et notre objectif, c'est vider l'enfer et remplir le ciel. Amen. Ça, c'est beau. Ça, c'est faire avancer le royaume de Dieu. Parfois, tu dis, bon, la vie chrétienne, c'est triste et tout ça. Bon, moi, je sais pas, j'ai pas envie et tout ça. Est-ce que tu te souviens que la Bible te dit, il y a plus de joie dans le ciel? Pourquoi? Pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça, c'est la joie du ciel. Amen.
Amen.
C'est pas la joie du monde. C'est pas la joie d'un film. C'est pas la joie d'une belle balade. Je vous dis pas de pas faire une belle balade. D'accord? Mais est-ce que tu veux le plus de joie possible de cet après-midi à l'évangélisation du lien? Parce que là, on va faire un appel, il y a des gens qui vont se lever, qui vont se convertir, des pécheurs qui vont se convertir, et les anges, ils vont être super contents.
Amen.
Mais tu vas sentir la joie des anges. Amen.
Amen.
Et voilà, peut-être que tu étais en dépression, et tu vas dire, waouh, Seigneur, quelle joie, tu remplis mon cœur maintenant. Mais si tu es chez toi, tu seras peut-être comme le lièvre dans son hamac. Tu vas te faire dépasser par les tortues. Bien fait pour toi. Non, je rigole. Il y a tellement d'âmes qui ont besoin du Seigneur. Il y a tellement d'âmes. On parle de la construction de notre lieu de culte. Mais nous voulons construire pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Nous voulons faire quelque chose pour vider l'enfer et construire le ciel. Amen. Que Dieu soit béni et qu'il nous aide. De toute façon, à ce propos, moi je suis quand même, quand je songe à certaines choses, je suis très content. À la télé, par exemple, l'autre jour, je passais à la télé qui disait ça. Il disait, est-ce que vous connaissez le groupe religieux qui grandit le plus vite? Vous avez entendu ça ou pas? C'est pas l'islam. C'est pas les témoins de Jéhovah. C'est les églises évangéliques. Alléluia! Qu'est-ce que tu vas faire là devant toi? Moi j'ai envie de dire, ok, on y va. Seigneur, on va lutter pour ton royaume. On va avoir cet objectif là. Amen. On va racheter le temps. Ça me surprend cette expression, racheter le temps. Parce que je me dis, comment je peux faire pour racheter le temps? Est-ce que je peux aller à Cora? Et là, je vais dans un coin, et là, je dis, est-ce que vous ne pourriez pas me vendre 2 ou 3 jours, là, parce qu'il me manque du temps? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Ben non, heureusement que ce n'est pas possible, d'ailleurs, parce que les riches, ils achèteraient beaucoup de choses. Mais les riches ou les pauvres, c'est la même chose. De ce point de vue-là, c'est égalité absolue. Alors pourquoi la Bible dit racheter le temps? C'est Colossiens 4, etc. Parce que ça veut dire que j'étais sur le point de perdre du temps précieux. Et puis maintenant, j'ai décidé de faire autrement. Rachète du temps pour le royaume de Dieu. Amen. J'avance avec mes diapos suivantes pour dire, soit que nous mangions, soit que nous buvions, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne veux pas vous dire, comprenez-moi bien, je ne veux pas vous dire qu'en tant que chrétien, tu devrais être là tous les jours de la semaine. En tant que chrétienne, ma soeur, tu devrais laisser tes enfants chez eux, qui se débrouillent. Je ne te dis pas ça du tout. Parce que je pense que le royaume de Dieu, c'est aussi chez toi. Amen.
Amen.
Et c'est pour ça que Paul dit que nous mangions ou que nous bougions, faites tout pour la gloire de Dieu. J'ai mis en caractère plus visible Par amour pour le ciel, le croyant s'occupe à merveille des choses de la terre. Amen. Je ne vais pas délaisser ma famille. Même si ma famille est inconvertie, je vais m'occuper de mon mari inconverti, je vais m'occuper de mon épouse inconvertie, je vais m'occuper de mes enfants, je vais bien faire mon travail pour la gloire de Dieu. Mais j'ai toujours le même objectif, la gloire de Dieu. Je suis comme la tortue, je vois mon objectif. Je suis comme Usain Bolt, je vois mon objectif. Amen. Dieu soit béni. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa maison, il a renié la foi. Il est pire qu'un non-croyant. Paul, il est là très fort là. Que le Seigneur vous aide, mes frères et sœurs. Regardez comme Jésus, mon deuxième point. Je remarque que Jésus ne voit pas les choses de la même manière que les autres. Par exemple, dans la diapo suivante, je vais un peu vite, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il nous est dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors je suis frappé par le fait que Jésus voit les choses d'une manière différente des pharisiens qui sont là. Parce que les pharisiens, vous lirez le texte et vous verrez dans Matthieu chapitre 9, les pharisiens, ils voient des prostituées, ils voient des gens de mauvaise vie, ils voient des voleurs et tout ça. Et eux, leur regard, c'est ces gens ne valent rien. Ils ne sont pas intéressants. À l'époque, on disait que c'était des gens du peuple. C'est-à-dire des gens qui n'obéissent pas au commandement de la loi et des gens qui n'obéissent pas à tous les commandements que le judaïsme avait ajoutés pour soi-disant plaire à Dieu. Donc, le regard des pharisiens était un regard de mépris, était peut-être un regard de colère. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pourquoi il s'approche de Jésus? Un regard de colère, peut-être qu'il se disait, mais ce Jésus-là, s'il était prophète, il saurait que cette femme-là, c'est une mauvaise femme. On ne s'approche pas de gens comme ça. Voilà le regard des pharisiens. Mais Jésus voit exactement les mêmes personnes. Jésus voit autre chose. Jésus a un regard particulier. Ce regard, c'est que il a vu, il est ému de compassion. Ces gens qui provoquent la colère et le mépris, dans le cœur de Jésus, ils provoquent une certaine pitié. Et Jésus dit, mes pauvres gens. Bien sûr, Jésus connaît leurs péchés. Ça, c'est vrai. Mais Jésus voit aussi leur misère. J'ai mis, il voit leur insatisfaction, il voit leur abattement, il voit les fruits du péché. Et les fruits du péché, ils sont toujours amers. Amen. Amen. Les fruits du péché, ils sont toujours amers. Peut-être tu te dis, je fais ça et je vais me protéger de telle ou telle manière. Mais si c'est un péché, c'est amer. Aucun péché ne peut apporter la joie, le contentement durable. C'est le désastre, le péché. C'est la misère, le péché. Mais Jésus, on l'avait déjà vu il n'y a pas si longtemps, Jésus ne hait pas le pécheur. Il hait le péché, mais il ne hait pas le pécheur. C'est pour ça que Jésus, il voit ces gens-là, et il voit des gens qui ont un grand besoin. Ils ont un besoin de berger. Ils sont comme des brebis errantes. Une brebis errante, c'est exactement l'inverse de ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un qui est en train d'errer, si j'errais dans la salle, je vais là-bas, je reviens, je passe là-bas, je ne sais pas où je vais, quoi. Et voilà, je suis en train d'errer. Je n'ai pas d'objectif. Est-ce que tu as un objectif? Est-ce que cet objectif, c'est le royaume de Dieu? Si tu es chrétien, tu as un objectif. Tu n'es pas en train d'errer dans la vie. Mais tu es en train de marcher avec le Seigneur. Tu sais que les biens matériels, les loisirs et tout ça, alors je ne dis pas que c'est mal, comprenez-moi bien, mais ce n'est pas ça mon objectif. Moi, c'est vrai que je me réjouis aussi de ce que le Seigneur nous donne. Plus tard, j'ai mis, mais peut-être que je n'aurai pas le temps de vous le dire, on profite de la plage, on profite des fruits, du ski, toutes sortes de choses. Dieu nous les donne. Mais mon cœur n'est pas là-dedans. Si j'ai pas la plage, je vais pas mourir à cause de ça. Si j'ai pas un yacht qui fait 30 mètres de long, je vais pas mourir à cause de ça. C'est, mon bonheur ne dépend pas de ça. Tu comprends que le fait d'avoir comme objectif le royaume de Dieu, ça te libère en fait de beaucoup d'inquiétudes. Parce que à ce moment-là, tu as un berger. Tu as un berger. J'ai une petite image, elle n'est pas trop visible parce que c'est de l'art paléo-chrétien et c'est pas très visible. Mais sur cette image, donc c'est très ancien, ça date du 3e siècle à peu près. Mais on voit ce berger. Vous remarquez d'ailleurs qu'il n'a pas les grands cheveux quand on représente Jésus, parce que quand on représente Jésus à cette époque, on ne le représente pas encore avec les grands cheveux, c'est juste en passant comme ça. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il a la brebis sur le dos. Mon frère, ma soeur, mon ami, parfois tu as besoin de quelqu'un qui te prenne sur ses épaules. J'en ai marre, c'est trop dur, c'est trop difficile. Seigneur, je viens près de toi. Et moi, je trouve cette image, elle est belle. Jésus te prend sur ses épaules. Je vais m'occuper de la situation. Je devrais dire amen à ça.
Amen.
Je vais m'occuper, le Seigneur te dit, je vais m'occuper de la situation. Il n'avait pas de berger. Jésus, il voit ces gens et il est triste pour eux. Il a de la compassion pour eux. Ils sont comme des brebis perdues qui n'ont pas de berger. Est-ce que Jésus est le bon berger pour toi? Voilà une question importante. Dans le dernier texte que je voudrais lire avec vous, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, que j'ai lu avec vous, pardon, évangile de Jean, chapitre 4, verset 35, c'est donc ce qui nous est dit à propos de la Samaritaine. Je récapitule rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de la Samaritaine. Le texte dit que Jésus était fatigué du voyage. Il faisait chaud, ils ont marché longtemps, il est fatigué. Les disciples sont fatigués. Et Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez aller acheter à manger là-bas, dans la ville de Samarie? Alors les disciples vont acheter à manger là-bas, et je pense qu'ils sont préoccupés. Il se dit, Jésus est fatigué. Oui, Jésus est fatigué. Jésus, il était le Fils de Dieu, mais il était vrai homme, il était fatigué. Le texte nous le dit. Les gens, ils s'imaginent, à Jésus, c'est comme Zorro. Ça, non! Jésus nous est présenté tel que, comment dire, avec vérité. Il est fatigué, il est assis sur le but. Qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué? Est-ce que tu dis, oh, aujourd'hui, je ne fais plus rien. Je me couche et tout ça. Je vous propose un premier scénario. Jésus est assis sur le puits et il voit arriver une femme au loin qui vient chercher de l'eau. On ne fait jamais ça dans un pays chaud. À midi, on ne fait pas ça. On ne va pas chercher de l'eau à midi. Ça, c'est trop fatigant. Mais la femme, elle ne veut voir personne parce qu'elle vit dans le péché. D'ailleurs, Jésus va lui dire à un moment. Jésus va lui dire, va chercher ton mari. Et la femme dit, j'ai pas de mari. Ah, Jésus dit, t'as raison. Parce que tu as été avec 5 maris. Et l'homme avec lequel tu es, c'est pas ton mari. Ça, c'était exceptionnel au 1er siècle. À Sarcelles, il y en a plein comme ça. Mais ça, c'est autre chose.
À Bobigny.
À Bobigny aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de progrès dans la question du péché. Bref. Cette femme, elle arrive. Imaginez Jésus. Oh, je suis fatigué. Mais je ne peux pas lui parler. Et il s'en va. Et il va s'asseoir derrière un arbre. Et il se couche et il dort. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faux. Parce que Jésus, il est peut-être fatigué. Mais quand il a un petit bobo, quand il y a une petite difficulté, il sait surmonter cela. Et quand la femme vient, il commence à parler avec cette femme. Et il voit que c'est une pécheresse. Il voit que c'est une femme malheureuse. Lui, là encore, il est touché dans son cœur. Il lui parle, il lui dit des choses. Et la femme, elle est enthousiasmée. Et la femme, elle laisse sa cruche. Elle retourne voir les gens qu'elle ne voulait pas voir. Alléluia!
Amen.
Et elle leur dit, venez. Il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les gens en face, ils disent, waouh, ben celui-là, il m'en a dit des trucs. Et les gens, ils viennent. Et les disciples, ils sont revenus avec la nourriture. Et ils disent, Jésus, mange. Jésus dit, non. Non, non, je ne mange pas. Pourquoi ? Quelqu'un qui t'a donné la nourriture ? Quelqu'un qui est allé chez McDo pour te rappeler. Chinois ? Il se pose la question, est-ce que quelqu'un est venu te donner de la nourriture ? Et Jésus dit, non, j'ai une nourriture meilleure que ça. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Quand vous vous nourrissez, ça vous donne des forces. Jésus, il était fatigué, mais il a fait un effort sur lui-même. Il a commencé à parler à cette Samaritaine, et après, il était en super forme, même s'il n'avait pas mangé. Alléluia.
Amen.
Sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Et puis à ce moment-là, Jésus leur dit aux disciples, « Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. » Et moi, je vois des disciples, ils regardent, ils disent, « Mais Jésus, mais on est au mois de mars. On est au mois d'avril. Il n'y a pas de moisson. C'est juste un peu vert. Mais Jésus, qu'est-ce que tu regardes ?» Il dit, « Non, regardez les Samaritains qui arrivent là. C'est la moisson qui blanchit. Amen. » Amen. Vous voyez, le regard de Jésus, il n'est pas comme le regard des disciples. Il y a des choses parfois qui font qu'on est un peu obnubilé. Mais Jésus nous exhorte ce matin, mes frères et sœurs, levez les regards, levez les yeux et regardez, levez les yeux, détachez vos regards des choses qui vous semblent peut-être si importantes, des choses matérielles, les préoccupations du travail et tout ça. Et regardez aux choses spirituelles. Je termine en disant, avec mon point 4, un titre un peu surprenant. Choisis ton regard. Choisis ton regard. Choisis ta manière de voir. Comment est-ce que tu vas voir les choses? Par exemple, Ève, il nous a dit, elle vit là. Quand elle a vu, il s'est dit, wow, ça, c'est un fruit qui est bon à manger. Je pense que ça va faire des bonnes choses. Elle raisonne elle-même. Elle a vu. J'évalue. J'apprécie. Je fais ce que j'ai envie de faire comme je le sens. Non. Dieu lui avait dit, tu ne feras pas ça. Si tu cherches le royaume de Dieu, alors tu ne vas pas regarder et évaluer les choses comme tu sens, mais tu vas dire, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Amen. Et je vais faire selon la parole de Dieu. J'arrive à ma conclusion. J'aimerais prier avec vous. Je pense que nous sommes des pèlerins en marche vers le royaume de Dieu. Notre objectif, même dans les plus petites choses, est de tout faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Notre objectif, c'est comme la tortue. J'ai un objectif.
Amen.
Je vais l'atteindre. Même si je ne marche pas très vite, même si je n'ai pas certaines capacités particulières que l'autre a, mais mon objectif, il est là. Je veux l'avancement du royaume de Dieu. Nous devons savoir regarder comme Jésus le faisait. Il savait voir la souffrance produite par le péché et les grands besoins spirituels de ses contemporains. Nous devons lever les yeux et regarder autrement. Jésus nous propose une vraie nourriture spirituelle. Je fais allusion à Jean 4, bien sûr. Choisis ton regard. Ta plénitude en dépend. Peut-être tu te dis, oh, bon, la vie chrétienne, c'était bien au début, maintenant je ne sais pas. Cherche dans ce sens-là. Et comme le disait Hébreux chapitre 12, regarde ayant les regards sur Jésus. Tourne tes regards vers Jésus. Une prière que je vous suggère de faire, Seigneur, donne-moi de voir comme toi tu vois et de regarder ce que tu regardes et comme tu regardes. Amen.
Notre dernière pause musicale avec l'artiste américain Paul Baloche que nous avons reçu récemment dans Mykonak. Ouvre les yeux de mon cœur. Je vous souhaite une agréable écoute sur votre radio Ebenezer International.
Ouvre les yeux de mon cœur, Père.
ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, oh, tu es saint. Te voir.
Et bien, c'est
oh, je désire te voir.
vous écoutez la station qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle. Ebenezer International, votre radio.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs et amis des ondes, nous arrivons à la fin de ce programme qui vous a permis d'écouter ce message du pasteur Jean-Claude Boutinon, prêché à l'église des Assemblées de Dieu de Sarcelles le dimanche 23 août 2009. Nous étions très heureux de passer en votre compagnie ces précieuses minutes à l'écoute de la parole de Dieu pour notre édification spirituelle. Si ce programme vous a plu, si vous avez des commentaires, des suggestions ou tout simplement des questions concernant le salut de vos âmes, soyez libre de nous les envoyer par cette adresse francradio@podomatic.com. francradio@podomatic.com. Avant de partir, j'aimerais remercier sincèrement toute l'assemblée de Sarcelles et plus particulièrement le pasteur Jean-Claude Boutinon pour son accueil très fraternel, très chaleureux. Je remercie également tous les artistes qui ont apporté leur contribution à la réalisation de cette émission. Commençons par Danny et Moïse Urtrel, l'artiste Donovan Alexander de l'Afrique du Sud, que nous accueillerons dans une prochaine édition de Mykonak, dans laquelle il nous parlera de son ministère. Je remercie aussi le pasteur, le worship leader, Paul Baloche des États-Unis d'Amérique, que nous avons reçu récemment dans Mykonak. Son témoignage est toujours disponible sur notre site, ainsi que celui du pasteur Boutinon dans la rubrique Pastopod. Mes remerciements vont aussi vers la société Sephora Musique de la Vie, à qui nous devons la version instrumentale que vous écoutez en arrière-plan, ainsi que le CD de l'artiste Paul Baloche, que vous avez découvert dans plusieurs de nos émissions. Et à vous tous, fidèles auditeurs, fidèles auditrices, qui étiez branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro d'Ecclésiopod. C'était pour vous servir votre ami en Jésus-Christ, Franck Douristil, qui vous dit une fois de plus, merci, que le Seigneur vous bénisse, et au revoir. Vous venez d'écouter Ecclésiopod sur la radio Ebenezer International. Digital Gospel, your station.
J'ai croisé le regard de Jésus.